Vous avez quelque chose à dire?
Non, non, la seule chose que je peux dire, c'est que par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est que oui, il n'y a que deux personnages, mais c'est deux personnages qui bougent. Et donc c'est plus intéressant que l'idée qu'on avait, comme c'est un peu artificiel, que chaque personnage allait représenter une catégorie. Là, on a le vieux qui a travaillé à l'ancienne, hein, qui raconte les chevaux, le fauchage, tout ça, et qui, quand les engrais arrivent, c'est magique, on jette, ça pousse. Enfin bon, en plus, il a six enfants à nourrir, donc on voit bien la logique de ça, quoi. Et il voit rien venir. Et le fils, qui va aux écoles d'agriculture, et qui on dit la même chose, il faut y aller, il faut en mettre, quoi. Donc il revient chez lui, et là, il s'aperçoit, parce que son voisin est viticulteur, que bon, qu'on va dans le mur. Et donc, c'est la longue histoire du changement, quoi. C'est-à-dire, comment peut-on changer? Donc, si vous voulez, cinématographiquement, c'est plus intéressant d'avoir un personnage qui bouge, qui change, et du coup, qui raconte une histoire, quoi. Donc.
Bonsoir. Moi, je suis pour les produits chimiques, puis arracher les haies. Non, je déconne. bon, je suis arrivé un peu en retard, j'ai pas tout vu, mais mis à part le petit grand-père qui était pour l'arrachage de haies, il aurait peut-être fallu interviewer d'autres agriculteurs qui se sont intensifs à avoir leur point de vue et savoir ce qu'ils pensent de ça et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour arrêter cette marée verte. Voilà.
Alors, je vais vous dire, je ne suis pas journaliste. C'est-à-dire que je ne prétends pas faire le tour de la question. Je ne prétends pas avoir tout dit sur cette question-là. Et donc, moi, si vous voulez, je pars du principe, quand je fais des films, que, un cas particulier d'un personnage, après, peut permettre de réfléchir sur le reste. Alors, effectivement. Alors, cela dit, le discours qui vous manque, il est partout à la télé, en permanence. Il n'y a qu'à ouvrir le poste. Hein, on a la FNSEA 24 heures sur 24. Donc, si vous voulez, déjà, pour moi, c'est presque une démarche militante d'aller donner la parole en face, c'est-à-dire à des gens qui, au moins, essayent de trouver autre chose. Et puis, encore une fois, si vous voulez, dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui me hérisse, en particulier la télévision, et qui est en train de s'imposer partout, c'est ce que j'appelle la pensée micro-trottoir. C'est-à-dire, quand on veut traiter une question, on sort dans la rue, on interviewe un mec qui dit « moi, je suis pour », un autre qui dit « moi, je suis contre », et un autre qui dit « j'ai pas d'opinion », et on a fait le tour de la question. Mais c'est un peu ça. Ou alors, des débats télé, il y a toujours le pour, le contre, enfin, comme si le monde, comme si la pensée se réduisait à une opposition, comme ça, entre deux points de vue. Or, les choses sont pas si simples que ça. Vous l'avez, moi, le personnage, enfin, je veux dire, le tenant du productivisme, vous l'avez dans le film, c'est Joseph. Vous en avez même deux. Le père, il est resté pareil. Lui, il veut qu'on supprime les. Et il trouve toujours que mettre de l'engrais, c'est très bien. Donc, de ce point de vue-là, il est défendu. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un conflit entre le père et le fils là-dessus, et qu'il y en a un qui s'aperçoit que le père avait tort, et que lui avait tort quand il faisait ça. Donc, si vous voulez, il n'y a pas besoin de rajouter une couche d'un mec avec marqué FNSEA ici, qui va nous dire le discours qu'on connaît et qu'on entend tout le temps, quoi. Donc, c'est pour ça que. Si vous voulez, moi, je crois que il est plus intéressant, au lieu de faire s'opposer des gens qui ne sont pas d'accord, de faire travailler une pensée chez quelqu'un. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire qu'à mon avis, tous les arguments et les informations, elles y sont dans le film, si on cherche bien. Y compris le point de vue de l'ennemi, si je puis dire. Mais je trouve plus intéressant que ce soit à travers un personnage qui raconte, comme il raconterait s'il était là ce soir, il vient des fois dans les débats, il raconte tout simplement sa vie. Mais si vous voulez, à travers ce cheminement, ça me paraît plus utile de prendre le cheminement d'un personnage. Et puis après, encore une fois. Moi, je ne crois pas que le documentaire, ça serve à répondre aux questions, ça sert à les poser. Et donc, c'est à nous, à vous, après, de saisir le truc, de discuter, d'aller chercher dans les bouquins. Si ce point de vue vous manque, il est dans plein de films, il est dans plein de bouquins, etc. Enfin, bon. Encore une fois, moi, je ne prétends pas du tout avoir traité la question de l'eau en Bretagne. Je crois qu'à travers un cas particulier, j'ai essayé de poser la problématique. Après, bon. Et avec des enfin, on voit bien que c'est une problématique à plusieurs étages. Hein, puisque c'est pas du tout. En plus, mon personnage, c'est pas du tout un ayatollah. Hein, il est pas bio. Il a la désherbineuse là qu'on voit. Elle sert à mettre un tiers de produit, mais elle met quand même un tiers de produit. Donc elle en met deux fois moins, mais elle en met quand même un tiers. Donc il est dans une logique pragmatique. Hein, c'est simplement avec la ferme telle qu'il a, il est bien en dessous maintenant des normes qu'on lui demande, des normes européennes, etc. C'est-à-dire qu'il est sur la bonne voie, il va vers ça. Mais si vous voulez, c'est pas l'idée qu'il y a les gentils, les méchants, le pour, le contre, etc. C'est plutôt, je crois, qu'il faut repenser l'agriculture. On passe pas comme ça d'un système à un autre, comme ça, d'un coup de baguette magique. C'est un long processus. C'est un long processus de prise de conscience, mais aussi de transformation des exploitations. Imaginez les gens qui viennent de s'équiper de machines à traire automatiques, hein, où il n'y a même plus besoin de mettre les trucs, où les vaches viennent elles-mêmes se faire traire. Je ne sais pas si vous savez, maintenant, les vaches, elles viennent elles-mêmes. Comment ? Non, c'est pas à Paris. C'est pas à Paris. Non, mais c'est absolument génial. Elles sont identifiées. Quand elles s'approchent de la machine les reconnaît et les machines se mettent en place. Et quand elle a fini, elle s'en va, etc. Bon, mais c'est une logique, par exemple, qui fait qu'on peut plus avoir les vaches dans les pâturages. Il faut qu'elles soient près du machin, près de la machine. Donc ça veut dire qu'elles vont plus, on n'emmène plus les vaches paître plus loin, etc. Bon, c'est des logiques industrielles. Bon, quand on est engagé dans une logique comme ça, qu'on a le crédit agricole au cul, si je puis dire, qu'on a des crédits jusque-là, etc. Changer, c'est très compliqué. Bon, je dis pas que c'est simple. Hein. Encore une fois, c'est pas, je suis pas naïf. J'ai juste essayé de montrer justement un personnage qui a essayé de changer, avec les complications que c'est, même pour lui psychologiquement. Enfin, quand sa femme dit il est pas à l'aise, parce qu'il a très très peur que on dise il gagne moins d'argent qu'avant, ce qui est pas vrai. Bon, mais il sait bien qu'il y a une pression autour pour dire bon, c'est vrai quand on la voit avec sa faucille. On peut se dire bon, on est au Moyen Âge là. Bon, et justement, il y avait un peu un conflit à ce moment-là entre les deux. Hein. Je ne sais pas si ça se sent dans le film, mais j'ai essayé de montrer. Lui disait bon, on perd beaucoup de temps à faire ça. Bon, elle disait non, c'est vrai que c'est du temps, mais on ne mettra pas de pesticides à cet endroit-là, etc. Bon, donc c'est une logique qui est à la fois des gens qui agissent, mais en même temps des gens qui réfléchissent sur leur pratique et qui essaient de la changer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Mais... Des gens qui agissent, mais qui partagent, puisqu'ils se mettent à plusieurs pour acheter une machine.
Bien sûr, mais ça c'est pas nouveau. Dans le monde agricole, il y a très longtemps qu'il y a des CUMA, qu'il y a des moyens...
Où... Non.
Enfin, je sais pas, je connais pas bien la Nièvre, mais il n'y a pas ici des coopératives d'achat du matériel agricole en commun. Si, je pense que ça existe partout.
Comme ça, tout seul. Moi, je vous félicite parce que vous êtes tombé sur des gens très intelligents qui ont su à chaque fois s'adapter, bon, que ce soit la personne un petit peu âgée. Et puis, donc, on s'adapte à chaque fois. Effectivement, ils ont trouvé. Et vous êtes tombé sur les bonnes personnes qui ont trouvé aussi les bonnes phrases. Donc, moi, j'ai bien aimé quand il a dit, effectivement, heureusement que la Bretagne a trouvé des algues. Parce qu'enfin, ils ont pris conscience. Mais ici, on n'a pas d'algues. J'ai un peu peur. Voilà, c'est tout.
On n'a pas d'algues, mais on a les maladies.
Oui, les maladies. Ouais. Voilà, c'est vrai que...
Non, mais allez-y.
Excusez-moi, je n'avais pas vu, je m'en ai donné le micro. Oui, moi, j'habite pas en Bretagne, j'habite dans la Nièvre, là, comme beaucoup. Et après avoir vu votre film... Et je compatis beaucoup à ce qui se passe en Bretagne, c'est horrible, je veux dire, bon, les algues vertes, etc. Mais vraiment, après avoir vu votre film, ça faisait un petit moment que ça me trottait, je pense que je vais aller m'installer devant les stabulations qui sont au bout de mon chemin pour voir où s'écoule l'eau, enfin les déchets des vaches lorsqu'elles sont en stabulation, et essayer de voir s'il y a un lien de cause à effet entre le fait que l'eau qui est servie dans le Bazois, c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres vers le sud par rapport à ici, l'eau qui est servie par la Sorre dans nos robinets est jugée non potable. Donc je me pose des questions assez graves depuis un petit bout de temps, mais là je crois que je vais commencer à creuser le sujet. Je sais pas, par chez vous là, à Corbigny, c'est de l'eau potable qu'on vous met au robinet ou pas?
Non.
Je ne sais pas si on est dans le même bassin, c'est ça? Et toujours non. Ouais. Toujours non potable.
Ouais, l'eau sur le bassin de Châtillon et puis sur Corbigny, jusqu'à Surtanet, je crois, c'est l'eau de l'Ardan. Donc c'est l'Ardan, c'est une rivière qui apparaît du côté de Chaumont, hein, c'est ça, au-dessus de Chaumont là. Et puis à Ardan, voilà, au lieu dit Ardan. Et puis Je dis ce que j'en sais, cette eau, pendant très longtemps, n'a jamais été traitée. Elle était considérée comme potable, il y a pas si longtemps que ça encore. Ensuite, il y a eu un traitement de sécurité, c'est-à-dire qu'on y a rajouté des choses qu'on n'avait pas besoin d'y rajouter parce que finalement, elle était potable. Mais finalement, avec les nouvelles normes européennes, et ça date de l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans, l'année dernière, il y a les nouvelles normes européennes en ce qui concerne l'arsenic et le fluor et le plomb ont dû s'aligner sur les normes européennes, ce qui fait que l'eau est trop chargée en arsenic en particulier, ce qui doit, d'après ce que j'ai entendu, être un problème très difficile pour extraire l'arsenic. Il y a des problèmes. Donc maintenant, on ne devrait plus la boire. Mais, alors dans les écoles, tout ça, l'eau est servie dans les... on se sert de bouteilles pour faire cuire les pâtes et tout le bazar. Vous voyez le truc, les palettes d'eau qui arrivent. Mais il y a une dérogation parce que, évidemment, puisqu'on peut rien faire pour le moment, il y a une dérogation préfectorale, c'est-à-dire qu'on laisse faire. Et en fait, il y a des gens, aujourd'hui, nous buvons, nous consommons de l'eau qui est considérée comme non... C'est potable, il faut dire. Oui, potable. Et donc on n'est pas, les normes sont pas appliquées ici dans la région, quoi. Mais dans les restaurants, normalement, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est possible si vous rajoutez un petit peu d'eau qui vient d'ailleurs ou qui sont, donc vous mélangez et ça fait que la dose est moins forte et vous retombez dans la norme. Voilà. Faudrait verser de l'eau de vitel dans la source d'Ardan.
Ouais. Oui, j'aurais voulu juste apporter un témoignage sur mon expérience, puisque j'ai une formation agricole. Et lorsque j'étais au lycée en Loire-Atlantique, à Guérande, et donc il y a bien longtemps de cela, et autant je me suis effectivement retransposé par rapport au témoignage de l'agriculteur qui évoquait le fait, lorsqu'il est sorti du lycée agricole, avec effectivement tout cet enseignement et sur les méthodologies employées sur l'exploitation. Moi, j'étais dans un autre domaine puisque c'était un BTA piscicole, élevage du poisson. Mais je me souviens effectivement de l'imprégnation et des coups de butoir effectivement qu'on recevait au lycée. Et je me souviens bien d'un prof, Jean-Pierre Costard, on peut le citer parce que ça a vraiment été quelqu'un qui m'a marqué, quoi. Et il était malmené dans le lycée agricole puisqu'il avait une position de toujours complètement à contre-courant de l'enseignement qui devait être effectivement, d'ailleurs, au bout de 3 ans, il est parti parce qu'on lui menait une vie pendable, et dans les réunions, il était vraiment très mal mené. Il est parti à la FAO ensuite. Et je me souviens bien effectivement des promotions. Je suis resté en contact avec tout le côté des promotions. Et un enseignant, ô combien il peut effectivement donner et impulser une trajectoire, et parce que 80% des gens avec qui je suis resté en contact ont effectivement une sensibilité environnementale très forte, et c'est simplement sur une personnalité qui était forte, qui nous tenait un discours et qui savait qu'il était très pédagogue, et qui nous effectivement a su effectivement nous imprégner par la suite. Effectivement, on s'en rend pas forcément compte sur l'instant, hein. Mais ensuite ça a donné une trajectoire sur nos vies professionnelles, ou ceux qui sont restés dans le milieu agricole ont un petit peu perçu effectivement le métier différemment, quoi. Donc on peut quand même penser qu'il y a encore de l'espoir, mais effectivement c'est l'enseignement au départ qui fait que, quand vous avez effectivement été bombardé pendant 3 ans, voire plus, d'un type d'enseignement avec une méthodologie derrière, vous ne savez pas faire autrement. vous allez effectivement appliquer ces principes. Et je me souviens que c'était la FNSEA était bon, c'est après coup hein, que je me suis effectivement rendu compte que la FNSEA était partie prenante dans tous les lycées et donnait une trajectoire quoi. Je me souviens bien les intervenants qui venaient, les techniciens nous faire effectivement des cours et des choses comme ça. Au départ, on n'a pas la capacité effectivement de décortiquer tout ça, mais c'est ensuite effectivement des années plus tard, quoi, quand on est un peu sensibilisé à la politique, un petit peu à savoir comment les choses se passent, qu'on se souvient effectivement d'un certain nombre de choses et se dire, bah oui, c'était pas anodin, quoi, les gens qui intervenaient et puis ce qu'on nous mettait dans le citron. Et on était preneurs, quoi, d'une certaine manière. Hormis, effectivement, il y avait le contre-courant de ce fameux costard qui était vraiment, et qui nous a bien ramené quand même dans le droit chemin. Et je me souviens, moi, derrière, quand vous dites effectivement que dans le coin, on peut considérer qu'il n'y a pas forcément de pollution, de rivière ou des choses comme ça, mais il y a un indicateur fort, c'est qu'il n'y a plus de truites. Et moi, étant effectivement impliqué dans le domaine piscicole, et effectivement, je me souviens bien, en Bretagne, j'ai pas travaillé en Bretagne en pisciculture, hein, mais j'ai fait des stages, sur des petites rivières, lorsque l'étiage arrivait, c'est-à-dire que tout le cours d'eau était détourné allant de la pisciculture, et il y avait encore 80-100 tonnes dans les bassins. Quoi, hein. Derrière, c'était une horreur ce qui sortait. Hein. Alors, on faisait plus ou moins... Les piscicultures n'étaient pas trop mal vues par les pêcheurs, parce que ils lâchaient, quoi. Ils lâchaient des truites, ils donnaient sur les concours, ils venaient, ils balançaient 100 kilos sur les concours de pêche, les machins, les trucs. Donc ça allait. Mais en fait, c'était vraiment ces poissons élevés en batterie, en grosse concentration. C'était une horreur, quoi. Et ça allait toujours, hein. La méthodologie, apparemment, est toujours la même, quoi. Donc voilà, c'est juste mon... Puis j'ai pas travaillé après dans le domaine, mais c'est pour ce que j'ai écho, effectivement, ça se passe toujours de la même manière, quoi, le côté, et surtout en Bretagne.
Sur la question des écoles, je sais pas s'il y a beaucoup de costards dans l'enseignement agricole, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent eu dans les débats des gens qui me disaient qu'il faudrait que votre fille passe dans les lycées agricoles et tout ça. Pour l'instant, j'ai jamais été sollicité. Enfin, on me l'a jamais demandé. Et en plus, j'ai eu plusieurs fois des profs de lycée agricole dans la salle qui m'ont dit après, dans un petit coin, moi j'aimerais bien passer votre film, mais je peux pas. C'est pas possible. Si je passe un film comme ça, c'est bon. Donc je suis pas sûr que le rapport de force. Alors moi j'espère que les générations de nouveaux profs vont arriver avec peut-être des préoccupations écologiques plus fortes. Mais bon, pour l'instant, j'ai l'impression que ça résiste quand même très très fortement. Et puis après, il y a ce qui est un petit peu évoqué dans le film, mais tout le travail des conseillers agricoles, qui se présentent comme des scientifiques, des professionnels, et qui sont en fait des marchands. Enfin bon, à un moment, il parle des marchands de pas beaucoup, des marchands de peu, là je ne sais plus comment il dit. Voilà, il y a quand même des gens qui sont là pour conseiller les paysans, soi-disant, et qui en fait sont à la guelte, pour leur vendre tel ou tel produit ou tel et tel matériel. Donc c'est tout un système, hein. Donc c'est vrai que sortir du système, ça suppose beaucoup de travail, une grosse force et sans doute des générations différentes. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens pour l'instant qui sont englués dans le système. Je crois. Enfin bon, vous êtes mieux. Enfin moi je ne suis que le réalisateur du film. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Hein, donc j'espère que vous avez plutôt des expériences concrètes là-dessus dont vous pourriez parler.
Ce qui est dans les lycées agricoles, là, nous on a l'occasion de travailler avec des enseignants qui s'appellent des ESC, enseignants sociaux culturels. Et dans les lycées agricoles, il y a une entrée facile parce que dans le socio-culturel, on peut très bien travailler sur le cinéma. Et donc c'est un lieu où on peut regarder des films. Et on n'est pas obligé de regarder des films qui sont simplement et le sujet, ça peut être quelque chose qui touche à l'activité future des gens qui sont dans ces lycées. Et à ce moment-là, en rentrant par les ESC, d'autant plus que les ESC, ils sont très ouverts généralement à ces problèmes. Il me semble, hein, c'est quand même des.
Oui. Je voulais vous encourager à diffuser justement votre film dans les établissements d'enseignement agricole et puis aussi auprès de groupes d'agriculteurs. Non, mais sérieusement, hein, je suis pas... Parce que je pense que c'est un excellent outil pédagogique. C'est vraiment c'est très bien dosé, c'est bien vu, c'est... Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Pour moi, c'est une vraie réussite.
Hein. C'est-à-dire que le prof est bon aussi. Hein. Quand tu fais la comparaison entre la merde, les deux merdes, là, je trouve ça formidable. Quoi.
Oui, oui, c'est non, très simple. C'est ça.
Voilà, il y a une merde là, une autre merde
on
là.
On sent qu'il y a du vécu quoi, dedans. Hein, c'est ça. Et c'est très bien.
Non, on va regarder. Hein.
Je voudrais, pardon, que... à ma connaissance, enfin, j'ai été conseiller agricole, si vous voulez. Hein, donc, j'ai porté la mauvaise parole. Enfin, mais dans la Nièvre, il faut. Je tiens à dire qu'on n'est pas du tout dans la situation d'excès de la Bretagne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des îlots d'excès. Hein, c'est sûr que si. Mais malgré tout, on n'a jamais atteint ces niveaux de 400 unités d'azote. Là, bon, bah, si vous voulez. L'équivalent dans la Nièvre, c'était divisé par 4 ou 5 quand même, hein, à la plus grande époque. Je parle des zones d'élevage. Pour ce qui est de la culture, de la grande culture, bon, bah, les doses de nitrate sont codées au niveau national ou international et c'est partout pareil, hein, ça c'est sûr. Mais enfin, malgré tout, j'ai trouvé votre film tout à fait passionnant.
C'est vrai qu'en Bretagne, on est arrivé à des... Mais c'est, en fait, c'est la logique du hors-sol en même temps. Enfin, à un moment, il y a un mec qui dit on n'a qu'à prendre le Clémenceau et mettre... bon. Mais c'est ce qu'on fait. Moi, j'ai visité une exploitation agricole d'un jeune mec qui venait de s'installer. Il avait 400 mertruis, donc des mers, vous imaginez le nombre de cochons que ça fait, dans un grand hangar. Il n'avait pas un mètre carré de terrain. Donc, vous imaginez la quantité de merde que ça produit. On est dans l'absurde là, mais on est dans des logiques comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun rapport entre la bête et le sol qui est censé la tenir et l'espace qu'il lui faudrait pour cette éjection, quoi. Donc c'est des logiques industrielles qui sont. Alors bon, en même temps, moi je me dis que peut-être c'est justement, si je suis optimiste, je me dis que cette logique-là va aller dans le mur toute seule. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour le poulet, par exemple, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que faire du poulet dégueulasse en très grande quantité, on le faisait beaucoup mieux au Brésil. Donc les Doux, qui était le grand spécialiste du poulet breton, il fait sa merde au Brésil. C'est-à-dire que je pense que pour le porc, il risque de se passer la même chose. C'est-à-dire à force de faire en très grande quantité du porc pas bon, au bout d'un moment, la filière va se casser la gueule parce que les gens vont aller faire ça en exploitant le tiers-monde beaucoup plus facilement. Bon, alors bon, vous allez dire c'est repousser le problème, effectivement, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que, bon, je pense que la viande de la Bretagne ne peut pas être dans le cochon industriel. Ça n'a pas de sens. Oui, mais encore une fois, bon, il y a des rapports de force. N'oubliez pas que tous les ministres de l'agriculture, quand ils ne sont pas directement issus de la FNSEA, ils sont largement sous la coupe de la FNSEA. Donc, bon, là, il y a un lobby là qui est... Parce que, par exemple, ce qui expliquait là, à la fin, c'était la répartition des aides. C'est une décision française. C'est pas une imposition de l'Europe. Au niveau de l'Europe, on a dit voilà les aides et vous vous débrouillez pour les organiser. Il y a des pays où on a réparti au prorata, etc. Où on a fait des choses. En France, on a décidé de bloquer sur 3 ans les aides qui existaient déjà. Bon, donc ça voulait dire que tous ceux qui faisaient du maïs et qui touchaient énormément de subventions, ils pouvaient faire de l'herbe tranquillement. Ils allaient toucher les mêmes subventions que si bon. Et ceux qui faisaient de l'herbe avant touchaient rien. Comment donc on est dans une absurdité. Cela dit, bon. L'Europe est en train de bouger là-dessus aussi. Et la dernière discussion qu'il y a eu sur la politique agricole commune va dans un sens différent. C'est-à-dire qu'on commence à dire qu'il faut arrêter de donner tout aux gros céréaliers, qu'il faut aider plutôt ceux qui sont respectueux de la nature, etc. Donc je pense que là aussi, les idées évoluent et elles vont évoluer aussi probablement à la FNSEA comme ailleurs. Je pense que bon, de toute façon, ça devient tellement impossible qu'il y a un moment où il va falloir que ça devienne raisonnable. Enfin bon, je ne sais pas, je suis peut-être trop optimiste, mais bon, mais encore, pour l'instant, c'est encore des combats, c'est clair. Parce qu'il y a des intérêts faramineux.
Moi, je trouve que c'est très bien. J'ai très. Comment dire. Ce film m'a très bien plu. Mais je veux dire, c'est bien qu'ils prennent conscience, ces Bretons, mais tout le monde sait bien que vous parlez de l'exemple des cochons, mais que. Même si on est dans l'Europe, actuellement, il est fait où le cochon ? Au Portugal et en Espagne, en batterie, et puis. Mmh. Hein, c'est pas parce qu'ils vont diminuer en France, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont plus le vendre. Déjà, ils n'arrivent pas à le vendre. Hein, à 5 euros le kilo.
Oui, c'est ce que je dis, c'est repousser le problème.
Ben c'est, les lois européennes, elles devraient... Ouais, c'est fait pour ça, quoi. Il faut voir la vision européenne, ou même mondiale, puisque vous parliez du Brésil pour le...
Oui, mais bon, il ne suffit pas de légiférer, pour le coup. Il ne suffit pas de prendre des décisions. Il faut qu'il y ait... C'est des décisions économiques qu'il faut prendre. Et là, on se heurte à des puissances. Donc, voilà, c'est ça qui est compliqué.
Je voulais réagir par rapport à ce que vous avez dit, par rapport aux profs. J'espère avoir ma licence de l'université des bistrots, là, parce que depuis le temps que lors de ces conférences, on nous dit de désobéir, il faudrait vraiment qu'on le fasse, quoi. Et donc, les profs, ils sont pas courageux par rapport à quelqu'un comme ça qu'on a vu. Lui, il a le courage, il a une forme d'humilité, il a le courage de se remettre en question, de dire j'ai rien compris, de dire j'ai la trouille, tout ça. Et les profs qui enseignent aux futurs agriculteurs, quel que soit le niveau, que ça soit c'est pas un CAP mais un BTA ou je sais pas quoi ou un BTS, etc., ils se cachent derrière leurs petits doigts en disant ben non, j'ai pas le droit. Si, ils peuvent, comme disait Jean, on peut passer un documentaire comme ça. Et la preuve, c'est qu'il y a des profs qui ont transmis d'autres messages. Donc, en fait, ils ont la trouille. Alors qu'ils sont fonctionnaires, ils ont la trouille. Et un paysan comme ça qui laisse une partie de lui-même et de peut-être de ses ambitions et de son fric, lui, il le fait. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce personnage-là. Il m'énerve parce qu'il n'est pas en bio total, mais quelque part, j'ai vraiment bien aimé son courage et son humilité, quoi. Et sa femme, elle est extraordinaire. Le vieux, par exemple, il est vraiment agaçant parce qu'il a connu à une époque où on ne traitait pas du tout. Il a connu, bien sûr, c'était dur. Mais là, il ne veut même pas se remettre en question. Il dit non, non, c'est comme ça, il faut pas remettre de haie et tout. Donc, mais j'ai bien aimé, comme vous disiez, le conflit. Non, parce qu'il y a des vieux qui sont revenus là-dessus. Il y a des vieux qui sont passés de... Y en a quand même, c'est-à-dire qu'ils sont passés donc de l'ancien temps, comme on dit entre guillemets, après donc du traitement, des traitements à outrance, etc., et qui sont revenus après en disant ouais, on a fait vraiment, on est allé trop loin, quoi. Mais donc voilà, les profs, moi je pense, je ne sais pas s'il y en a ici ou les formateurs, mais il faut désobéir, il faut passer ce genre de documentaire.
D'autres remarques, questions? Intervention. On est équipé, on a deux micros, on peut parler en stéréo.
Trois micros. Simplement, peut-être en élargissant un petit peu le débat, c'est-à-dire qu'on a effectivement, on sait que l'agriculture intensive avec la production de protéines animales, puisqu'en fait c'est ni plus ni moins de cela hein, qu'on parle, hein, protéines animales, dans un registre plus global, il faut repenser effectivement la consommation mondiale ou internationale, puisque si on veut considérer effectivement l'Europe, et pas forcément, et là il y a des leviers effectivement au niveau de l'Europe, hein, quand on sait... que l'énergie, vers quoi effectivement s'achemine en termes d'énergie et de problématiques d'énergie, la quantité d'énergie, pétrole, gaz, qu'il faut effectivement pour arriver à produire une protéine animale, où il faut 7 calories, c'est-à-dire tout le processus, c'est-à-dire pour obtenir une calorie de protéine animale, il faudra effectivement sur toute la combinaison et tout le flux, effectivement, il faudra 7 calories de... oui, c'est bien ça, 7 calories de production... De protéines végétales. C'est-à-dire, il y a une débauche de... Il y a une débauche effectivement complètement invraisemblable pour produire des protéines animales. Il faut effectivement une débauche d'énergie complètement inconsidérée. Quand on sait effectivement que tout ce que l'on mange en termes de protéines animales est en surconsommation, et on sait que tous nos pays développés sont en surconsommation de protéines animales avec les problématiques de santé qui vont avec, hein, le cholestérol, les problèmes cardiovasculaires, on se porte bien mieux quand on mange des protéines végétales. Effectivement, il y a une remise en question de l'alimentation en profondeur qu'il faut effectivement placer et informer. Et le gros souci, effectivement, lorsque vous le indiquiez tout à l'heure, il suffit d'ouvrir le bouton de la radio. Bon, moi, j'ai pas la télé, je regarde pas la télé. Mais en fait, pour tous les jours, avoir au moins un reportage, j'ai l'impression qu'on est sur-informé. Et cette surinformation nous passe complètement à travers le cerveau. On percute plus, on n'est plus du tout... on n'est plus du tout sensible à ces données de surproduction et de quand on parle de surproduction d'animaux, hein, derrière effectivement il y a une débauche aussi d'énergie quoi, hein, qui va avec. Hein.
Mais t'as pas la télé, tu vis en dehors du monde.
Ben ouais, mais je suis là. Hein. J'existe.
Je crois que vous êtes quand même un peu pessimiste parce que c'est vrai qu'il y a une surinformation, mais en même temps, je crois que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, il y a une prise de conscience quand même qui se fait peu à peu de toutes les questions que vous soulevez.
Non, effectivement. Non, je voulais simplement dire que quand j'ai parlé des algues tout à l'heure, j'ai dit que en fait, je pense qu'on en met beaucoup aussi sur nos terres et on n'a pas d'algues pour le voir. Mais effectivement, je pense qu'on exagère nettement. Je voulais simplement rappeler qu'à Corbie... Comment ? On en met moins, d'après M. Bourdieu. D'accord. Non. Je me rappelle simplement du temps où j'étais agriculteur. Et agricultrice, et que on a donc arrêté puisque on ne produisait pas assez pour rembourser les emprunts agricoles, etc. Bon. Ça, c'est un autre problème, mais ça veut dire qu'il y a aussi énormément de conséquences sociales au phénomène de l'engrais et de tous ces phénomènes qui donc nous ont poussés à dépenser et au machinisme important. Je voudrais simplement rappeler aussi que tous les lundis, il y a un camion qui vient de Hollande et qui nous amène tout notre porc qui va être découpé et saucissonné pour que nous puissions en consommer toute la semaine. Voilà, c'est tout.
Où ça, lundi ?
Bah, au Viande du Nivernais, à l'abattoir. Hein.
Ah bon ? Moi, je croyais que vous aviez arrêté l'agriculture parce que j'ai entendu dire que vous aviez arrêté l'agriculture parce que vous aviez fait fortune. C'est vrai. Hein. Il y avait un tableau à la chambre d'agriculture. Ils ont fait fortune et il y avait les Davos de Cervant. Non. Voilà. Je sais pas. C'est encore quelque chose. Tu veux rajouter quelque chose, Christian?
Moi, je n'ai même pas besoin de micro parce que je suis muet, voilà, c'est tout. C'est une rivière nivernaise, donc elles sont peut-être pleines d'algues, mais elles sont encore jolies. Hein.
Elle est toute verte, effectivement. Ouais. Donc avant, merci Christian.
La Nièvre bouge un petit peu, donc je vais faire une petite annonce. Je sais que Jean, tu n'aimes pas le collectif, mais bon, on va quand même appeler à des actions collectives. Non, mais tu l'as dit tout à l'heure que tu n'aimais pas que le collectif pouvait mener à des... Voilà. Bon. Bon, donc, je peux parler des actions. En fait, des Amis de la Conf, c'est une association qui vient de se créer. Une antenne des Amis de la Conf, ça existe au niveau national. Donc, une antenne vient de se créer dans la Nièvre pour la Confédération Paysanne, donc, pour soutenir... Non, je ne représente pas. Je parle au nom du groupe.
Oui, c'est ça. Voilà.
Pourquoi ? Mais non, je suis un groupe à moi toute seule. Une bande de jeunes, voilà. Claudie, Joël, là, Maud. D'accord. C'est vrai que j'apprends ça aux gamins en plus. D'accord. Voilà, je m'appelle Muriel. Voilà. Claudie, Joël, Maud. Voilà. Bonjour Eric, Eric vers vous aussi. Voilà. Donc il y a un groupe qui va mener des actions avec les paysans, bien sûr, de la Confédération paysanne. On essaiera de vous tenir informés par le biais des conférences, par le biais de la presse, par le biais de la radio, évidemment, par le biais de courriers. Si vous pouvez, je ne sais pas comment on peut faire, si on peut laisser des adresses électroniques pour les gens, un petit mot, vous laissez peut-être un petit mot sur le comptoir avec une adresse électronique ou une adresse postale pour si vous êtes intéressé par ces actions-là, qu'on vous contacte. Merci. Tout le monde, oui, bien sûr, tout le monde peut faire partie des Amis de la Conf. En fait, si on n'est pas paysan, on ne peut pas faire partie de la Confédération paysanne, donc il y a une structure qui s'appelle les Amis de la Conf. Voilà.
Oui, je vais faire comme chez comment il s'appelait, Pivot. Je vais vous présenter les livres. Donc vous avez, comme ça vous allez voir ce qui peut vous intéresser. Jean Viard, Lettres aux paysans et aux autres sur un monde durable, voilà. Je dis pas la collection. William Engdahl, OGM et semences de destruction. Sylvia Pérez, Vitoria, les paysans sont de retour. Là, ça ne démoralise pas du tout, ça. À moins que vous n'aimiez pas les paysans. Frédéric Mouchon, allons-nous mourir de faim? Drôle de question. C'est Bertrand Hervieux, l'archipel paysan, la fin de la République agricole. Voilà, plein de choses intéressantes. Pierre Rabhi, qui est très connu pour son action humaniste autour de la terre. Manifeste pour la terre et l'humanisme. Pierre Rabhi, au dernier présidentiel, il n'était pas là, mais avant, il avait été candidat au présidentiel, mais il n'avait pas eu le nombre de signatures parce que ce n'était pas très intéressant ce qu'il racontait. Fabrice Nicolino, les pesticides, bien connu aussi. Fabrice Nicolino, encore lui, la bagnole, la faim, le blé et nous, une dénonciation des biocarburants. André Pochon, les sillons de la colère. André Pochon, qui est bien connu aussi. La malbouffe n'est pas une fatalité. C'est lui qui le dit. Hein. Je ne fais que de lire. Les AMAP, un nouveau pacte entre producteurs et consommateurs par Claire Lamine, avec la collaboration de Nathalie Perrault, voilà, chez Yves Michel. Voilà. Le marché de la faim, c'est bien connu aussi. Et puis, je crois qu'on a prévu de passer le film. Donc, c'est dans le programme, hein, le marché de la faim de Erwin Wagenhofer et Max Annas, le livre du film. Donc, ça, on le reverra puisqu'on va passer le film. Je crois que c'est à Saint-Sauge. Et puis, donc, pour aller vite, vous avez le « On a bien le temps ». Bon, c'est peut-être pas vrai, quoi. On n'a peut-être plus le temps, mais bon, ça, c'est un truc du théâtre éprouvette. C'est donc un travail avec des personnes âgées. Un temps à deux pattes, bon, c'est peut-être un temps à une patte, je ne sais pas si on va y arriver, mais voilà, c'est théâtre éprouvette aussi. Puis il y a un troisième bouquin, je ne sais pas où il est, c'est « Ah le voilà ». Donc troisième, quatrième, on parlait du cochon, c'est sur la couverture, c'est des pieds de cochon. Donc c'est troisième et quatrième bouquin, économie, vous voyez. Deux bouquins en un, écrits par les habitants de Brassy et de Gien-sur-Cure, en collaboration avec Ricardo Montserrat et Jean Cagnard, voilà. Et puis, ah oui, pour ne pas mourir de la réalité, un ami Yves Humann qui vient de sortir un tout petit recueil de poésie. Vous savez, la poésie, hein, en général, c'est des petits recueils parce que les gens s'essoufflent rapidement. Hein, vu l'état de la poésie, alors je me permets de vous le présenter. La poésie existe toujours, elle est maigrichonne, mais elle est encore là, elle tient le choc. Voilà. Merci. Et puis, j'ai oublié tout à l'heure, je sais qui je devais remercier, c'est Rémi et puis Raphaël qui sont venus jouer, mais ils vont rejouer maintenant. Et je vous rappelle que la suite des sessions universitaires de l'Université des Bistrots, c'est fin janvier. On fait une pause universitaire très, très longue. Et fin janvier, on recevra Marc Le Glatin sur le thème la culture et l'Internet.